Fréquence Mistral est aujourd'hui très heureux de recevoir Nirline et Mélissa de l'association Otra Tierra. On a eu la chance de rencontrer Mélissa pour les troisièmes rencontres d'artivisme pour décoloniser qui avaient eu lieu à Fort-Calquier courant avril. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps de discuter. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Léa.
Bonjour Léa.
Je vous laisse présenter l'association et ses valeurs et son histoire.
Oui, bon, donc merci Léa pour l'invitation. Et donc nous sommes l'association Otra Tierra. Nous sommes une association basée en France, mais aussi avec une antenne en Amérique latine. Nous avons des projets à une échelle internationale. Nous travaillons avec différents collectifs des femmes un peu partout et autour des thématiques. Fils rouges sont les artivismes et les féminismes décoloniales. Bon, on va expliquer petit à petit. Une de nos priorités, c'est donner justement une visibilité aux propositions, aux projets, à la production des connaissances des femmes et des artistes et des artivistes féministes, parce qu'en fait, ce sont des personnes qui n'ont pas toujours eu une visibilité dans le monde, dans le milieu de l'art, mais aussi dans tout ce qui est l'activisme ou la vie politique même.
Activisme, oui, donc c'est lié activisme et
donc
art.
Voilà, c'est ça, c'est que ouais, tout simplement, mais c'est vrai qu'une façon facile de comprendre les activismes, c'est sont justement des actions sensibles, artistico-sensibles, poétiques qui lient l'activisme et l'art.
Ça peut être fait pour des artistes, mais aussi chercheuses. Pour des gens qui sont activistes, donc ils prennent du outil de l'art pour mettre en place quelque chose pour changer le monde, quoi. Donc l'artivisme, c'est cet endroit dans des milieux de l'art, comme c'est un métier exclusif, et l'activisme aussi comme un métier exclusif, ça mélange un peu les deux pour être plus efficace dans la sensibilité des personnes. Parce qu'on sait qu'en fait, on reçoit beaucoup d'informations par les réseaux sociaux, par les médias en général, mais l'activisme peut être une façon plus sensible d'arriver à vraiment toucher des personnes et les faire mobiliser. Donc c'est pour ça qu'on est très passionné par cet outil de l'activisme, et on les utilise dans cette cadre de féminisme des coloniaux, qui va en fait réunir aussi beaucoup de différents types de perspectives sur les problématiques qu'on traverse dans le monde actuel. Donc les féministes décoloniales, en quelques mots, on peut vraiment parler 2 heures sur ça, mais réunit beaucoup de différents mouvements. Ça veut dire, par exemple, le black feminism, les mouvements décoloniales dans l'Amérique latine, les mouvements décoloniales à l'Asie, à l'Afrique aussi. Beaucoup d'intellectuels différents et d'activistes différents qui sont, depuis 60-70, amenés quelques... Nous prévions de penser, bon, on est arrivé à un moment du monde que c'est nécessaire qu'on change change notre façon d'être vivant, en fait, d'être ici, d'être dans la nature,
d'exister.
Et cet mouvement de féminisme amène les points de vue des femmes, mais des femmes qui sont, je dirais, dans la périphérie du monde. Ils vont profiter de, par exemple, le féminisme blanc qu'on connaît. Ils vont ajouter des autres choses qui sont très importantes pour elles, pour arriver à une vision plus complexe de notre problématique. Donc, Otra Tierra prend de tout ça, s'inspire de tout ça. On avait créé quelques plateformes différentes. Ça veut dire on donne des formations, on organise des rencontres, on organise des résidences féministes avec des autres artistes et activistes. On organise, travaille avec quelques communautés un peu ailleurs. Et comme ça, on amène cette discussion des féministes décoloniales travers ce type de plateforme qui nous aide à rencontrer des gens.
L'association a été créée en 2020. Comment vous êtes, vous connaissiez, comment
on a une longue histoire d'amour. Ça c'est déjà, ça fait une quinzaine d'années, je dirais, qu'on s'est rencontrés avec Nirline, et on avait commencé à travailler ensemble sur une plateforme, sur un réseau sud-américain des danses. On vient tous les deux du monde de la danse. On a approfondi pas mal nos recherches et nos travails du corps dans le milieu de la danse contemporaine principalement. Et on s'est rencontrés autour de ce réseau de danse sud-américaine. Et à ce moment-là, on avait déjà commencé à travailler autour des thématiques du corps, autour des thématiques aussi de la médiation culturelle de l'art. Nirline, à cette époque-là, elle avait un festival, une plateforme de rencontres autour de la danse aussi au Brésil. Elle m'avait proposé de venir. On avait commencé déjà nos collaborations comme ça, c'est-à-dire que depuis le début, on avait des questionnements qui étaient communs, quoi. Un petit peu quitté des vues, quelques années. On a fait un peu chacune nos projets, et puis on se retrouve en 2019 pour créer Otra Tierra et remettre en commun un peu nos recherches et nos questions du moment, quoi. Et à ce moment-là, Nirline, elle venait de terminer aussi son doctorat en féminisme décolonial et au Brésil, voilà. Une couche, on va dire, des contenus qui étaient déjà là, et voilà, et on est parti déjà sur ça. Et après, il y a eu toute une arborescence qui est sortie de tout ça. Et donc voilà, ce projet Otra Tierra qui se décline en formation, comme elle disait, résidence, rencontres, etc. Mais c'est vrai que le fait que moi, que je vis ici en France, ça a joué sur le fait qu'on monte aussi cette antenne en France, mais aussi parce que ça avait du sens, en fait. Ça avait du sens complètement que la thématique, que vraiment la problématique, la thématique du décolonial soit amenée, parce que tout simplement, c'est nécessaire, c'est vital, et je dirais, bon, je vais un peu fort, mais je crois que ça suffit. On peut plus en tant que, moi je peux me dire française aussi, parce que maintenant j'ai ma double nationalité, qu'en tant que, ouais, en tout cas que citoyen et citoyenne du territoire européen français, etc. On peut plus faire les aveugles par rapport à la thématique du décolonial. Enfin, je veux dire.
La culture et ces questions-là, les associations petites comme ça, est-ce que vous en vivez aujourd'hui? Vous avez des subventions?
Ouais, ça c'est une bonne question. Compliqué.
Normalement, on se soutient sur un petit projet qui on passe dans différents endroits. Et cette année en spécifique, le 2024, on avait réussi un petit soutien de l'association, de la Fondation Au Monde par tous, qui a vraiment fait confiance que notre travail est solide et nous ont donné un soutien qui permet un peu d'avoir une base pour continuer à faire des choses de la façon qu'on le fait. Donc, ça veut dire qu'on toujours a besoin d'autres agents qui viennent pour faire la chose, mais on a déjà quelque chose, par exemple, pour payer les billets d'avion si c'est nécessaire, ou transportation si c'est nécessaire, petites choses comme ça. On fait un budget complémentaire tout le temps. Donc, par exemple, si on va faire une formation, on avait fait déjà la semaine dernière en formation en Grenoble, des personnes s'inscrivent, elles payent quelque chose, il y a des bénévoles qui aident à organiser là-bas, on fait un part un peu bénévole parce que par la quantité de travail qu'on fait, on sait qu'on ne va pas avoir l'argent correct, mais après on fait cette complémentarité et c'est possible de soutenir de cette façon. Mais on vraiment dépend de notre réseau familial aussi, des amis, des personnes qui sont vraiment importantes. Parce que, par exemple, quand j'arrive à l'Europe, je reste ici 3 mois à travailler beaucoup de choses différentes, mais je reste chez Mélie, chez Pedro, et ça serait impossible, en fait, de payer.
Vous tirez pas un salaire correct.
Oui, voilà, c'est ça. C'est sûr qu'on n'est pas en mesure de se salarier
Vous n'êtes pas salariée ?
Comme on l'entend, avec un salaire mensuel, ça, non. Donc, pour le moment, comme elle expliquait, on se paye par action. Là, c'est la troisième année.
Ouais.
Je pense que, en tout cas, déjà, avec la préparation, oui. Mais je veux dire, par rapport à, par exemple, les rencontres, que c'était la troisième année. Pour moi, il y a à peu près 3-4 ans, qui est un temps où un projet a besoin aussi pour gagner une visibilité, aussi pour cumuler des contenus et des expériences qui te permettent après de commencer à chercher de financement. Et même sans chercher des financements, qui te permettent déjà de commencer à réfléchir sur une économie propre à ton projet. Et voilà, je crois qu'on est en train de rentrer un peu dans cette phase-là. L'année dernière, on a aussi décroché un financement européen, qu'on est assez fiers, parce que c'est vrai qu'en si peu de temps, finalement, quand même, l'année dernière, on a été avec ces financements européens, et ça, bon, on en parlera peut-être dans une autre occasion, mais ça, c'est encore un autre projet de Otra Tierra qui va dans lequel, de recherche, sur lequel on s'est plongé toute l'année dernière. Bon, voilà, qui nous a donné aussi, nous a permis un peu de vivre cette année avec la fondation. Donc voilà, tu vois, petit à petit, chaque année, on arrive à, pour le moment, ça fait 2 ans qu'on arrive un petit peu à avoir une petite économie qui commence à arriver. Mais voilà, c'est vrai qu'on est quand même toujours dans un système collaboratif. Et en fait,
Même au Brésil, même à l'Afrique, quand on fait des projets là-bas, on compte avec des fonds qui nous reçus pour faire les choses, tu vois, qui s'organisent pour faire la collaboration possible, en fait.
Les actions de votre association sont sur un sujet extrêmement précis, bon, qui entend aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de visibilité, mais qui n'est pas non plus le plus consensuel, qu'on soit clair. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le féminisme décolonial, c'est déjà une première étape de devoir expliquer, ensuite le faire passer. C'est des projets très novateurs, et je ne suis pas sûre qu'ils trouvent aujourd'hui les portes grandes ouvertes à chaque fois. Donc, et en plus de ça, vous avez décidé d'implanter l'association à Fort-Calquier, un territoire rural. Donc c'est vrai qu'il y a les réseaux de solidarité, le printemps de la ruralité, on en a parlé, il me semble, où toutes les associations étaient conviées au Théâtre du Rance pour faire une grande réunion
un
pour
état des lieux.
Des associations qui sont dans la culture et dans la réalité. Soit se voient parfois censurées, soit se voient en grande difficulté économique. Enfin, tout le monde...
C'est ça. C'est ça, et je pense qu'on est vraiment en train de passer par un virement, justement, par rapport aux politiques culturelles en France, quoi. En fait, je pense que là, on se rend compte de plus en plus qu'effectivement, les financements pour les projets culturels sont de moins en moins. C'est plus le temps où c'était l'effervescence et que tout le monde avait possibilité d'avoir un financement. Et je pense que là, justement, il y a ce challenge-là des acteurs culturels, surtout en milieu rural, de se dire, voilà, il faut qu'on invente des stratégies collectives de collaboration, des partenariats pour que les projets continuent à vivre. Et puis aussi par rapport à justement quelles économies alternatives proposer en tant qu'entité autonome, en fait, indépendante aussi, quoi. Parce que je pense qu'aussi il y a toute cette relation qui a été pendant très longtemps très paternaliste, je dirais, avec le gouvernement français, parce que voilà, il y a eu toujours quand même beaucoup d'aide, et voilà, le statut d'intermittence, c'est un grand exemple aussi, et ce qui est très bien, mais le problème, c'est que quand on ne nous a pas appris à faire sans. Et du coup, là, quand le papa, il n'est plus là pour donner les sous, ça fait une catharsis qu'il faut qu'on l'assume et qu'on crée et qu'on propose des choses en parallèle, quoi.
C'est une discussion intéressante. On peut entrer dans un cadre de pensée, bon, pour moi, peut-être pour moi, que l'État européen a la responsabilité de vraiment stimuler d'informations intéressantes, importantes pour ces populations. Et donc, en même temps, on sait qu'on devrait continuellement, et on le fait tout le temps, d'y avoir cette vision complexe sur l'économie, voilà, de pouvoir en fait faire des différentes choses, et ça c'est la santé économique en fait. Mais après, on devrait continuer à demander à l'État qui fait son travail de soutien des initiatives qui sont importantes pour la population. Donc, les changements des modes de vie, les changements et ce type de choses sont des choses qui sont l'éducation. Et l'éducation, pas nécessairement l'éducation du travail, c'est l'éducation d'une forme intégrale. Donc, pour moi, c'est bon, on accepte la crise économique, on accepte la mathématique, c'est difficile pour tout le monde, mais après, c'est important d'avoir, bon, pour moi, la critique de en quel type de choses l'État investit. Mmh. Tu vois. Et qu'est-ce qu'on va demander?
Est-ce que justement le féminisme décolonial, ça fait pas partie de ce qui, ça serait pas un peu mis dans le panier du wokisme, donc du coup ce qui pose problème pour les financements?
Oui, aussi, je dirais que toutes les affaires qui sont pas vraiment obéissantes. Vont être un peu plus difficiles de mettre en cadre des financements. Et ça, c'est pour l'État et ça, c'est aussi pour des gens, pour les publics, pour des personnes qui vont s'inscrire à quelques activités. On sait, en le cas spécifique d'Otra Tierra, on sait bien qu'on bouge avec des choses qui sont vraiment à l'intérieur de notre façon de vivre. Donc, on sait qu'on va compter avec une minorité de personnes qui sont vraiment ouvertes pour être bougées. Donc, on sait ça. On part de ça. Et en même temps, on essaie de créer une méthodologie qui, une fois la personne est avec nous, et on utilise beaucoup de méthodologies différentes pour compter avec cette disponibilité et faire une chose intéressante avec ça.
On va d'abord faire une petite pause musicale.
Cada vez que tiran los cañones, se pone pesada mi artillería. Todo el que me ataque lo devoro, como leona de cacería. Ya me tienen las huevas hinchadas, si protesto me llaman subversiva. Y sé que mi rabia te incomoda, porque sé que me prefieres compasiva. Suena ese llamado que despierta, que nos libera el peso de encima. A ese monstruo le tiemblan las piernas, sabe que su derrumbe se aproxima. Se soltaron ya las yeguas del campo, bajando cuestas, curas de espanto, lágrimas secas y sin quebranto, grito que se vuelve canto. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito.
Más vale que las palabras lindas te rindan, o por mi descendencia y los ovarios que me guindan. Me importa poco de lo que me tildan, nunca he creído que calladita me veo más linda. Luego cuando escupo es como fuego y ácido, se ve que tu palabra o es como tu desfacido. Yo los mato rápido, el ritmo decapitó. Yo chambeo plazo automático. Yo nunca me la voy a dejar montar, si es grande tu ego, el mío de tamaño colosal. Y la cobertura es intercontinental, lo que tu camino por la marginal. In the room, yeah. Se soltaron ya las yeguas del campo, aquí no hay llanto, hablamos con encanto. Me la sapura, hierba del campo, tengo el sofrito que te gusta tanto. Y dime algo bonito, quiero escuchar. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito.
Dime algo bonito,
quiero escuchar algo bonito.
Dame viento.
Ivy Queen, la caballota, la perra, la diva y la potra.
on se retrouve avec Myrline et Mélissa d'Otratiera pour parler de féminisme décolonial. C'est désormais l'heure de faire le point sur donc, les rencontres d'artivisme pour décoloniser qui ont eu lieu au mois d'avril à Fort-Calquier. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter ce qui s'est passé? On s'était loupé pour une question de calendrier, on en est désolé, l'an prochain ce sera rattrapé, j'espère. Vous étiez pour la première fois en association avec Numéro Zéro, La Miroiterie, pas que du cinéma avec vous. Qu'est-ce qui s'est passé en avril?
Oui. Bon, alors, ce qui a été intéressant pour nous, c'est qu'on a un peu déplacé notre focus géographique, parce qu'on avait travaillé principalement sur des propositions et des invités d'Amérique du Sud. Pas que, c'est vrai qu'on a toujours essayé quand même de garder cette présence d'autres territoires. L'année dernière, il y a eu aussi des gens de Martinique, de Guadeloupe, d'outre-mer, quoi, des territoires d'outre-mer. Pour moi, nous, justement, par rapport aux thématiques, aux problématiques de la décolonialité, pour nous, c'est vital de garder un lien avec des personnes qui vivent ces territoires-là et qui sont au cœur de ces questions-là. Parlons du Sud global, concrètement. Mais cette année, en fait, on a voulu donner une place principale à des artistes et des chercheuses venues du Moyen-Orient. Donc ça a été pour nous une nouveauté. On a pu recevoir, donc, on a invité trois artistes chercheuses venues de différentes zones. En fait, on avait quelqu'un qui venait d'Iran, Afghanistan, Tunisie. Et c'est vrai que par rapport à justement la situation et la crise géopolitique que nous vivons, pour nous c'était impensable de pas donner un focus sur ces zones géographiques et surtout ces discours dissidents venus de ces horizons-là. Donc on a été ravis d'avoir avec nous ces artistes-là qui nous ont proposé des formes plutôt, nous on appelle ça conférence performative. Ce sont des formes qui nous intéressent beaucoup, où il y a un travail de recherche souvent en sciences humaines et qui est transmis sous une forme performative au public. Donc voilà, c'est vraiment une espèce de mix comme ça.
Ce qui permet d'un côté l'échange en fait, la participation du public, c'est ça?
Oui, ça peut, oui. Après, chaque intervenant a sa patte, sa formule et sa manière de penser la performance. Ouais. Mais oui, il y a des façons d'inclure le public dans la transmission, mais aussi il y a comment l'intervenant, enfin la chercheuse ou le chercheur aussi vont performer, je veux dire, vont mettre le corps et sa chair dans ces transmissions-là. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est très différent quand on parle de la recherche en sciences humaines, qui va rester souvent enfermée dans un dossier, qui va rester dans un... Bah, bref, une archive en bibliothèque. Et surtout, souvent, peut-être partagée en tant que conférence. Mais là, il y a vraiment ce pas vers la performativité en fait qui est intéressant, et donc à ce niveau-là ce sont des chercheurs et chercheuses surtout des chercheuses qui vraiment moi je dirais c'est un peu des pépites, un peu des ovnis, quoi. Et donc là par exemple je voudrais parler de Raquel Iborghi qui est bon, elle c'est quelqu'un qui vient d'Italie, qui est géographe, qui est professeur de la Sorbonne, à Paris. Et elle, on a commencé avec elle nos rencontres. Elle a fait l'ouverture. Et elle nous a proposé un cabaret stand-up sur la thématique de la décolonialité. Un cabaret queer, décolonial, sur la thématique de la décolonialité.
Et ça a été super cool parce qu'elle avait amené beaucoup de paroles différentes des femmes du monde entier. Et a choisi en façon très drôle en même temps et très humoristique d'amener l'attention du public. Et elle avait changé dans les scénarios de beaucoup de choses à paillettes. Il y a été cette cabaret, variété intéressante avec ce type de contenu que c'est un peu plus difficile, en même temps, en faisant un peu de la critique de nous-mêmes, tout le temps. tu vois. Donc, on a rigolé beaucoup et en même temps, on a vu à quel niveau nous sommes colonisés, notre façon de voir la vie, c'est très colonisé, donc ça a été cool. Et ça a été très politisé aussi, pour toute sa question de Palestine et tout ça, donc il a amené ça aussi. Donc ça a été une façon intéressante de combiner les stand-up avec la politique.
Oui, sur l'autodérision, du coup, c'est sur un modèle d'autodérision, elle faisait, c'est ça ?
Il y avait par exemple aussi l'intervention de Josefina Zuan, qui est l'Argentine qui habite à Roma, avait fait une conférence pratique sur les twerk, que c'est, je ne sais pas si le public, c'est l'écouteur connaît, mais c'est un mouvement qui défend les mouvements de les basans comme un mouvement d'auto-perception, d'auto-soin, d'auto-conscience, pas seulement une chose pour provoquer quelque chose de sexuel avec des personnes qui sont en train de voir cet mouvement. Donc ça a été super cool parce que des personnes sont arrivées pour une conférence et la première chose qu'elle a dit, bon, tout le monde va s'élever, va poser dans les murs avec les deux mains et après on va bouger comme ça et on va bouger comme ça. Et des personnes ont commencé à rigoler, il a vraiment pratiqué la chose en tant qu'elle explique toute sa recherche qui est justement sur comment la colonialité a fait que les bassins a été complètement cassé et complètement ça avait devenu très rigide et avec une vision très sexuelle seulement ça.
Où le bassin a été clôturé ou enfermé dans un regard qui est sexuel, quoi. Et c'est vrai que la Josefina, elle amène tout un regard comme elle disait, quoi, d'érotisation, mais pas que. Enfin, déjà, oui, il y a une partie d'érotisation, mais aussi il y a toute une partie de soins. Parce que aussi c'est ce truc de se faire du bien et de bouger et d'activer une partie de notre corps qui est très énergétique, en fait, que quand elle est activée, ça fait du bien et ça aligne les hémisphères de notre corps. Et ben on l'avait encloîtré. Je pense que c'est ça le mot qu'on cherche, que le bassin a été encloîtré par la colonialité.
Et après, ça a été 3 heures, presque 4 heures, que des personnes ont resté en bougeant. Et ça a été super drôle et super joyeux, je dirais. Et après, par exemple, une petite performance qu'on avait amenée de Cobra Academy, qui est d'Afghanistan, habite à Paris. Il avait fait une chose très subtile, mais vraiment forte. Et elle discute un peu la relation qu'on a avec notre propriété privée. Elle a commencé petit à petit à prendre une chose d'une personne et la donner pour autre personne. Et des petites choses comme
la vague, un
vêtement, un portable. Il a vraiment changé tout le monde. Et des personnes sont... Et en même temps, c'est très douce. Elle est très douce dans cette action. Donc, des personnes n'ont pas réagi comme une chose violente. Mais après, tout le monde a été, bon, et maintenant, on fait quoi? On fait quoi avec tout ça qu'on est en train de sentir de cette proposition?
Et quand tu vois ton objet qui part à l'autre bout de la salle et après, tu ne sais plus qui a... ton objet précieux, en fait.
Ouais.
Ta bague, ta boucle d'oreille, ta montre. Et tout est tout en douceur. Elle te prend le truc et puis il va le donner à quelqu'un d'autre de l'autre côté de la salle. Et
c'est mettre les choses dans la bourse.
Et du coup, dans le sac de l'autre et tout. Bon, pendant une heure, et après, tu sais plus. Personne ne sait où se sont tes objets.
Ça favorise la rencontre, du coup, j'imagine.
Et après, bien sûr, c'est ça. C'est ça.
Et après, des personnes sont des demi-heures... en changeant de nouveau toutes ces affaires et en parlant et tout ça. Donc ça a été une façon très intéressante et pratique de questionner qu'est-ce qui se passe en nous avec notre propriété privée et pourquoi on est comme ça, on pourra
développer sur le concept de la propriété privée et du coup on peut continuer sur d'autres événements qui ont eu lieu pendant les rencontres.
On a eu Juliana, qui est une artiste d'Argentine, qui a fait tout un travail, un atelier, conférence aussi, sur l'écriture, ça s'appelle Désir collectif, et elle travaille, elle prend comme point de départ l'écriture pour justement déclencher ou décloîtrer encore une fois un peu les carcans qui nous renferment aussi au niveau de l'écriture.
Et
de la langue aussi, oui, c'est ça. Et là, on avait travaillé sur la thématique du désir, ça a été hyper, hyper intéressant. Et dans un travail collectif, donc après, on a fait une grande toile autour de justement qu'est-ce qui est le désir.
Et les gens ont développé, on avait parlé de ça après, on a développé une petite éthique de désir. Parce qu'en fait, quelles sont les limites de ton désir? On s'est demandé beaucoup de ça, tu vois, dans une société qui s'est dit décoloniale ou qui se bouge dans le sens de bon, je peux pas continuer à être colonisateur de quelqu'un et quelqu'une. Comment je veux avoir mon désir contemplé ou amené? Et donc, beaucoup de choses ont passé, mais on est arrivé à cet sens de bon, il y a une éthique qui n'est pas morale, qui n'est pas culpable, qui n'est pas tout ça. Mais en même temps, c'est une éthique de bon, je devrais arriver avec mon désir d'une façon très, plutôt complexe et pas infantilisante. Donc ça a été très cool aussi.
Oui. Il y a eu aussi, donc voilà, donc comme on disait aussi tout à l'heure, nouveauté aussi de cette année, ça a été cette collaboration avec le Festival Numéro Zéro. En vrai, c'est pas la première fois qu'on collabore, mais c'est vrai que pour cette édition, la collaboration a été beaucoup plus approfondie. Qu'on avait une programmation, une coprogrammation, donc on a pris le temps de choisir ensemble propositions. Donc notamment, on avait donc cette proposition du film de Transfariana.
Qui était un film phare qui est passé bien 3-4 fois dans la semaine.
C'est ça, qui est passé 3-4 fois, qu'on a eu aussi
l'équipe, la chance,
ouais. Oui, d'avoir l'équipe. Il y avait le directeur, il y a l'assistant de direction, il y avait le producteur, enfin bref,
c'est
l'équipe au complet.
Incroyable, en fait.
Oui, en deux mots, vous pouvez le pitcher.
Oui.
Je pense que la chose très... Bon, pour moi, la chose très importante de ce film, c'est qu'il bouge beaucoup avec notre préjugé sur la FARC, oui, comme une faction armée dans la Colombie, c'est très loin et tout ça. Et ça a amené, les films amènent la question des genres dans les milieux de los guerrilleros.
Des insurgés FARC.
Et ça a été super intéressant la façon que le directeur amène cette question. C'est un long film, je dirais c'est 12 heures quelque chose,
ouais,
parce que c'est
plus
un
plus
documentaire, 2
heures et demie, ouais,
c'est un peu long, mais tu t'amènes tout le temps en face de ton préjugé, et petit à petit,
tout descend, tombe.
Toutes les choses que tu as pensées tombent.
Ouais.
Et donc, on a une bonne idée de la situation en Colombie maintenant, avec toute la chose de l'accord de paix et toute la chose de comment l'accord de paix amène la question des genres et des diversités culturelles. Donc, ça, c'était super intéressant. Mais d'une façon aussi qui bouge avec tout notre préjugé sur la question de la transgénérité. C'est vraiment un film super bon de voir, surtout, je dirais, pour des parents qui sont en face des jeunes qui sont en train d'expérimenter leur sexualité et leur genre d'une façon vraiment différente maintenant. Donc pour moi, ça est vraiment un film à voir si on est en train de comprendre qu'est-ce que c'est qu'on discute sur la transgénérité maintenant, en fait.
Oui, et l'autre chose qui est hyper intéressante de ce film aussi, c'est qu'il montre justement la convergence des luttes. C'est assez, il y a des moments assez touchants et forts où justement les groupes de l'ASFARC vont rencontrer et donc la communauté, cette communauté très engagée des personnes trans qui sont eux-mêmes dans un centre de Bogota. C'est incroyable, c'est assez sublime la rencontre qui se passe entre ces deux luttes, entre ces deux collectifs qui se rendent compte finalement que voilà, qu'ils ont plein de choses en commun et que et même s'il y a tout un conflit, des énormes différences des générations et aussi de d'engagement politique, parce que bon voilà, on a d'un côté tout un regard très presque militaire, quoi, et d'un autre côté là, toute la proposition, cette diversité transgenre avec justement un regard un peu plus moi je dirais vers l'art, l'artivisme, vers une esthétique. Et et c'est assez, moi j'ai trouvé ça hyper, hyper touchant justement de voir comment ces deux collectifs, ces luttes s'est trouvé, quoi. Après, c'est beau aussi parce que les gens qui ont fait le film, ils ont gardé, enfin ils continuent, ils se sont engagés concrètement avec les collectifs même trans, parce qu'il y a notamment, on parle de Laura qui est une des personnages principales et qui est en prison. Et en fait, il y a tout un collectif qui s'est organisé pour soutenir et pour justement essayer de se mobiliser par rapport à sa situation judiciaire. Et moi, je trouve que c'est assez beau aussi de voir comment, voilà, après cette expérience de filmique, et ben il y a tout ce collectif là du film qui termine par s'engager encore politiquement aussi avec ces collectifs, et notamment avec Laura qui est en Colombie et qui a 54 ans de prison comme
parce que rappelons-le, du coup Transfariana c'est un documentaire, donc c'est une histoire vraie, voilà.
Oui. Non, je dirais que je pense que cette année pour nous dans la rencontre, la question de la justice acoustique, ça a été vraiment un fil rouge très important, la générosité, le courage que nous pouvons avoir de vraiment écouter, vraiment et attendre ça que des autres sont en train de dire, qui ça requit quelques courage, tu vois, parce que ici dans l'Europe, dans notre privilège, on peut protéger, les nouvelles sont un peu loin, et cette façon de bon, comment on amène vraiment cet témoignage d'une façon qui peut vraiment toucher, vraiment, et en même temps on Autre terre en train de demander, bon, amène ton générosité, amène ton courage pour te trouver dans cet témoignage, dans cette expérience qui va bouger avec toi-même, mais que c'est très nécessaire pour construire une autre chose différente. Donc pour nous, c'est vraiment l'inspiration de cette rencontre a été cette justice acoustique, en fait. Tout le monde avoir des moments d'être écouté d'une façon plus équitable.
Mm-hmm. C'est ça.
Justice acoustique, c'est une très belle expression, je n'ai jamais entendue.
Oui, vraiment. Vous avez une radio, donc la justice acoustique, c'est très important. C'était comment on construit une ambiance où toutes les différences vont être écoutées, vraiment écoutées, tu vois. Mais ça requit la générosité de l'écoutant.
De l'écoute de ceux qui écoutent. Et ça me fait rebondir, donc en parlant aussi de la justice acoustique, que aussi, d'autres choses de notre programmation de ces rencontres qui a été donc partagée avec Numéro Zéro, ça a été un documentaire sonore. parce que Numéro Zéro travaille aussi sur le documentaire, mais aussi sur tout ce qui est la création sonore. Et là, on a aussi programmé ensemble un diptyque documentaire sonore qui s'appelle Nora et Violetta, et qu'encore une fois, ce sont deux témoignages entre le documentaire et la fiction, qui racontent la vie des deux femmes qui sont des femmes de ménage, qui vivent à Bruxelles. L'une est colombienne et l'autre est marocaine. Et donc ça aussi, on a eu dans notre chouette programmation cette année, donc ce diptyque des documentaires sonores qui a été réalisé par Chloé Despax et Anaïs Carton. Encore une fois, en parlant justement de ce qu'on disait, la justice acoustique et justement le donner la place qu'il faut pour entendre ces témoignages et d'avoir le courage aussi de venir les entendre. Pour nous, ça, c'était vraiment effectivement une espèce de leitmotiv cette année des rencontres et qui a collé aussi super bien avec Numéro Zéro.
En parlant de justice acoustique, ça me fait penser que notre collègue animatrice Agap, elle aussi DJ, elle sort une playlist 100% féminine régulièrement, une fois par mois. Women on Wax. On va refaire donc une pause musicale. On a conclu sur les rencontres. Et on reviendra pour parler des formations que vous donnez donc. Pour conclure donc les rencontres de l'archivisme pour décoloniser.
Oui, alors ça a été super aussi, c'est parce que ça devient un peu notre tradition. Et on fait à chaque fois une soirée Girls Night où on invite des DJ donc de femmes. En fait, voilà, c'est des soirées électro. On est accompagné aussi. Bon, cette année il n'y a pas eu, mais il y a la vidéo aussi. Le Vigin, donc il y a musique et vidéo, donc ça c'est chouette. Et bon voilà, c'était super chouette soirée. Cette année, ça a été à la salle des fêtes, pardon, de l'URSS. On était en folie.
Vous avez dû secouer l'URSS, effectivement.
On a secoué le village, ouais. Oui,
387 habitants. Hein.
Et la chose très intéressante aussi, ça a été que en fait, ça est devenu plus en plus un espace très queer, en fait, pendant l'événement, pendant les rencontres. Mais cette soirée en spécifique, ça a été vraiment majorité des personnes, des femmes. Et après, majorité des personnes non-binaires, queer, visiblement queer. Et ça a créé une ambiance cool, chouette, différente. Tu vois, normalement, on est dans une société très hétéronormative. Donc, avoir quelques espaces que tu peux vraiment secouer sans te préoccuper pour les regards masculins, c'est une chose qu'on apprécie, en fait.
Ouais. C'est vrai que dans les grandes villes, c'est plus simple de trouver des espaces et des événements ouverts ou réservés aux personnes queer. Et que là, dans le 04, il y a moins ça. Vous me disiez qu'il y a des personnes qui sont venues de Gap, de Digne, pour cette soirée. Donc, c'est que vraiment, il y a une demande. Moi, je pense qu'il va falloir mensualiser ça.
On y travaille, on va voir.
Vous avez enchaîné avec une formation à Grenoble qui s'appelait Corps de Feu, passer de la théorie à la pratique.
Dans ces workshops, l'idée, c'était de... Effectivement, c'est une façon de rentrer dans les corps, en prenant comme point de départ quelques points théoriques. En fait, on va prendre comme point de départ quatre concepts qui ont été donnés, abordés par le féminisme décolonial, qui sont donc le concept du senti pensante, le privilège et oppression, ensuite corps et territoire, et ensuite le discours situé. Donc on a proposé 3 jours des formations, des workshops. Dans nos formations, on a une méthodologie qui fait toujours, une pédagogie qui fait toujours des va-et-vient entre la théorie et la pratique. Ça a été important aussi parce que ces apports conceptuels, ce sont des apports qu'on les a beaucoup travaillés aussi cette année. On a fait toute une recherche aussi cette année justement sur les féminismes décoloniales et aussi depuis une perspective de qu'est-ce qui est être citoyen ou citoyenne européen aujourd'hui et comment les féminismes décoloniales, les activismes peuvent nourrir une réflexion par rapport à ça et aussi notamment par rapport à la thématique de la migration. Donc bon, il y a eu un peu tout, il y a maintenant, on commence à voir, enfin on a une mallette pédagogique conceptuelle, un référentiel théorique qui d'ailleurs est accessible pour tout le monde et qu'on peut partager avec vous le lien pour cette mallette pédagogique où il y a vraiment tous ces prétextes, tous ces référentiels théoriques avec lesquels on travaille concrètement.
Et avec 8 exercices pratiques en fait. Dans ce projet-là, on travaille, je pense que Otra Tierra a ce début de vraiment amener la théorie à la pratique et revenir la pratique à la théorie aussi. Tu vois, d'amener cette deux grandes façons de savoir-faire.
De savoir-faire.
Donc, elles sont différentes, sont juste différentes et pour nous, sont complémentaires. Donc, dans cette mallette pédagogique, on a un cadre référentiel très riche pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'on pense que c'est nécessaire pour réinventer la citoyenneté européenne. Et en même temps, on a 8 exercices pratiques pour les travailler. Donc, notre stage sont normalement comme ça. On va avoir un bon référentiel intellectuel, on dirait. L'invention des exercices qui nous aident à comprendre vraiment qu'est-ce qu'on parle. Donc, par exemple, si on va parler de la senti-pensante, comme on sait, c'est une méthodologie décoloniale qui a été développée dans l'Amérique latine qui amène l'importance de penser avec le cœur et ressentir avec la tête, un peu, et vraiment mélanger cet savoir toujours. Et pour faire ça, on a développé quelques exercices qui vont faire ça plus compréhensible d'une façon pas nécessairement rationnelle. Et cette senti-pensante, c'est une contribution de les féminismes décoloniales à les savoirs décoloniales en général. Et même chose avec cette chose de la dynamique des privilèges et oppressions, ça a été développé pour des féminismes, pour vraiment avoir cette attention de qu'on est dans une dynamique en que chaque personne va avoir quelques privilèges qui ne sont pas une chose de mérite. Mais pas, tu ne choisis pas ton privilège, tu ne travailles pour ton privilège est là. Par exemple, si tu es né en Allemagne, tu as le privilège d'avoir tout un type de droits que tu n'as pas travaillé pour ça. Ça, c'est une chose que tu reçues et c'est comme ça. Et les mêmes choses, quelques oppressions qui sont là, c'est les mêmes dynamiques. Tu ne choisis pas d'avoir la peau foncée, par exemple. Tu n'as pas le droit de choisir quel type de peau tu vas avoir. Donc, cette attention à cette dynamique des privilèges et oppressions, ça a été une contribution du féminisme qui on l'amène dans les stages pour vraiment travailler ça d'une façon qui est pratique et qu'en même temps amène beaucoup de responsabilités, mais pas la culpabilité. Parce qu'en même temps, on ne fait rien avec la culpabilité. On se sent mal, mais après, tu vas faire quoi avec ces privilèges? Tu vas faire quoi avec cette sensation de que c'est injuste? Et comment on peut se bouger? Donc, on amène des différentes images, des différentes connaissances, des différents exercices pour inspirer les gens à se bouger d'une façon différente. Emily a parlé des deux derniers conseils qui ont bougé, qui sont conscience de que corps est territoire et qu'on est vraiment...
Est-ce qu'il est discours situé, non, c'est ça?
Corps et territoire, c'est un conseil que le féminisme amène pour discuter la dispute des territoires qui passe par les corps des femmes. Et bon, c'est complexe d'expliquer en quelques mots, mais c'est la conscience que le féminisme amène de que notre corps humain est en fait le symbole de le territoire aussi. Et on va discuter ça avec des mots et avec des pratiques aussi. Et le dernier, c'est le discours situé, effectivement. C'est simplement, non, pas simplement, mais c'est la conscience que tout discours est partiel, tout discours est contextuel, tout discours va être en partialité, c'est inversion de la chose. Donc, c'est nécessaire qu'on toujours sait qu'on parle d'un lieu spécifique. Donc, je parle dans mon expérience, dans mes propres histoires, et ça ne peut pas être en vérité décalé ou déplacé pour des autres endroits comme en vérité. Donc, c'est super cool d'amener ce type de conscience d'une façon pratique et que des gens aient quelques insights pour comprendre mieux où est nous et qui sommes nous et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, même avec cette dynamique des privilèges que beaucoup de personnes peuvent vivre en Europe.
Oui, par rapport à cette thématique du privilège, je trouve que on en a parlé justement pendant la formation à Grenoble, et je trouve qu'un point qui est assez important, en tant que, justement quand j'entends les personnes blanches françaises, l'idée de prendre conscience de ces privilèges, c'est pas de se culpabiliser. Et justement, on parlait de ça, on disait que plutôt le mouvement, ça serait de rentrer dans une notion des responsabilités par rapport à ça, donc pas des culpabilités, mais des responsabilités, et aussi de créativité. Et je pense que c'est par là aussi que nous, on propose du coup tout un ensemble d'exercices, d'expériences qui vont effectivement entre le corps et la théorie, et qui amènent justement à réfléchir sur cette dichotomie, on va dire, sur ces dichotomies et sur ces thèmes complexes qui sont les privilèges et les oppressions, en ayant justement une entrée. Enfin, je pense que c'est ça aussi, c'est là où on parle aussi de la décolonialité, c'est justement qu'est-ce qu'on propose une fois qu'on est conscient de tous ces
inégalités,
tout ça, comment
on agit ensemble.
C'est ça.
Et ça a été cool parce que les derniers jours de la formation, des gens ont fait une dévolution pour nous et ils sont dit vraiment ça, c'est super important.
En pensant à cette personne qui a été au stage, que je disais ça, parce qu'en fait, elle disait, quand je suis venue ici et que j'ai vu cette formation sur la décolonialité et tout ça, je pensais que j'allais prendre une baffe, un truc comme ça, par rapport à justement tout le mal que mes ancêtres ont fait. Non, donc quelqu'un qui vraiment avait cette... Enfin, en tout cas, voilà, qui vient se questionner dire, et qui s'est dit, voilà, on est des Occidentaux, je viens de cet héritage-là, et en gros, je vais me faire un peu bafouer, frageler par rapport à ce que mes ancêtres ont fait. Et elle disait, et au contraire, là, ça c'était à la fin du workshop, elle disait, je me sens avec un bien-être incroyable, je me sens remplie, je me sens bien, je me sens soignée. Pour nous, c'est...
Inspirer aussi à faire différent.
Oui, à faire autrement, à inventer autrement. Et c'est ça qu'on cherche, nous aussi, dans les workshops, non, c'est d'ouvrir justement, de proposer d'autres entrées, d'exister, quoi.
Et parce que pour nous, c'est important de faire les alliances. Vraiment, de faire l'alliance. Parce qu'on ne peut pas continuer à développer ce type de dispute qui va nous arriver à rien, en fait. On ne va rien faire.
Vous êtes, en d'autres termes, une convergence des luttes, quoi.
Et oui.
Les méthodes que vous utilisez dans vos workshops et vos formations sont quand même extrêmement similaires à ce qui peut être proposé en éducation populaire, il me semble. Est-ce que vous revendiquez de cette école, qui n'est pas vraiment une école, du coup, mais, ou pas, ou comment vous placez par rapport à l'éducation populaire?
Oui, on est de cousines très proches de l'éducation populaire, c'est sûr. On travaille en France avec notamment le CREFADA et les CREFAD Loire à Saint-Étienne, donc qui est une association d'éducation populaire avec lesquelles on travaille très... c'est une collaboration très importante pour nous. On est vraiment dans des logiques très similaires. Donc oui, je pense qu'on est dans la même famille, mais je pense que nous, par notre entrée, que ça soit dans le corps ou aussi dans l'apport décolonial, je pense qu'on a quand même une particularité. C'est une autre forme, une autre stratégie, une autre pédagogie. Même si je pense qu'on est quand même de cousines très proches.
Je me souviens avoir fait un questionnaire des privilèges, des choses comme ça.
Oui, bien sûr. En éducation, oui, il y a ces questionnaires par rapport aux privilèges, effectivement. Oui.
Mais à un moment donné, je pense qu'à notre terre, on vraiment profite de tout ça. Parce qu'on n'est pas très jeune. Ouais. Donc, on avait fait beaucoup de choses dans la vie. Et nous sommes artistes aussi, artistes, danseuses. Meli est DJ aussi. Je suis prof en différents endroits. Donc, cet regard de l'art et de la danse amène beaucoup de connaissances de comment tu peux mettre en place des concepts qui sont complexes. Donc, on vraiment profite de ça pour créer notre méthodologie. Ce n'est pas une question de dire que c'était unique, je pense pas. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des choses similaires dans le monde. Mais en tout cas, pour nous, on amène ça qu'on avait appris pendant des années de notre vie pour amener les choses qui pour nous sont importantes, inspirantes, urgentes et tout ça. Tu vois? On fait notre mouvement par des choses qui sont vraiment importantes pour nous, donc qui s'amènent quelques sincérités, je dirais, dans les façons de les faire. Ça fait notre corps brûler.
Oui.
Ça fait brûler notre corps, oui.
Oui.
Vous incarnez, en fait, il y a vraiment la notion d'incarnation.
Oui.
Non. Et oui, de la connaissance qu'on amène. C'est vraiment
une pensée incarnée, c'est ça. Oui. Oui, je crois que c'est bien de se définir comme ça. Je crois que vraiment, on vit en chair et en os.
Tout ça, c'était une phrase qui est très typique, mais c'est vrai, dans notre cas, on s'empare des changements voudrait de voir dans le monde, tu vois. On va faire la chose qu'on pense qui va changer pour nous la vie, en fait.
Oui, et par exemple, autre chose que sur laquelle on travaille, et encore une fois, c'était intéressant les discussions qui sont arrivées pendant la formation à Grenoble, ça a été aussi tout le travail autour de la spiritualité qu'on va voir, nous aussi.
Ouais.
Ça, c'est, je trouve c'est, qu'on retrouve beaucoup justement dans l'entrée de le Senti Pensante. Qui est aussi ce côté de comment parler du sacré, de la spiritualité, en l'attachant avec la théorie, en fait, avec quelque chose de très concret, et sans rentrer dans une doctrine, mais vraiment dans une pratique qui peut être sensible et qui peut avoir un lien aussi avec le sacré, aussi avec la pensée magique, moi je dirais. Par exemple, le tarot, les oracles, ce sont des outils que nous on utilise aussi.
Des chansons.
Enfin voilà, on aime bien aussi toucher à ces
parce qu'en fait, on a grandi dans cette manière aussi. On fait part d'une culture qui mélange beaucoup de choses. L'Amérique latine, c'est ça, en fait. On est vraiment les fils de la colonisation qui sont vraiment un mélange incroyable. Et on essaie d'amener la part qui est positive, qui peut en fait changer quelque chose, parce qu'on a appris beaucoup de choses dans 105 ans de colonisation. Donc on a vraiment développé des pratiques et des pensées qui nous aident à résister. Être un peuple en même temps joyeux, même avec tout ça que ça avait arrivé pour nous.
Oui.
Donc ça c'est une connaissance qu'on voudrait partager et on partage toujours.
Ça me fait penser un peu aux réflexions de Philippe Descola, il me semble. Mais c'est le fait que oui, la spiritualité n'est pas du tout abordée comme en Occident, où nous on est enfants du monothéisme, du christianisme, etc. Et du coup, je crois qu'il y a une, c'est plus fluide en Amérique latine.
Oui, il n'y a pas de contradiction, en fait. Il n'y a pas de contradiction. Et on amène ça dans notre formation. Et je vais profiter donc pour passer à la action qu'on va faire à Toulouse,
ouais.
Qui va amener en fait deux des autres recherches, la recherche du master de Mélie et la recherche du master de Haïssa, qui est notre collaboratrice de Otra Tierra, et parce que les deux amènent par les rapports de la musique et de la culture populaire beaucoup de connaissances que c'est très important pour arriver à un activisme plus incarné, comme on avait dit. Donc cette chose de vraiment profiter de la culture populaire qui nous a grandi pour partager une connaissance avec des mondes qui peut-être va être important pour ces changements qu'on voudrait faire.
Oui, et à ce niveau-là aussi, ce qu'on trouvait intéressant, c'est revenir justement sur la culture populaire sud-américaine, mais aussi française, parce que moi, j'avais fait ma recherche justement sur toute la culture et le mouvement musical en Occitan. D'Occitanie. C'est aller justement visiter toutes ces pratiques aussi anciennes et musicales, mais qui sont attachées en lien aussi avec voilà, toute la pensée magique, spirituelle d'une grande partie de la France, quoi, du sud de la France. Et aussi, c'est aller quelque part dire bon, ben voilà, si, voilà, cet mouvement qui a été attaqué et encore une fois aussi qui a souffert de toute la pensée coloniale. La langue occitane, comment elle a été étouffée et violentée depuis tant d'années, et comment, voilà, donc dans cette, aller puiser, aller voir là-dedans aussi, pour nous, c'est aussi une façon de dire, vous aussi,
ensemble, ouais.
Vous avez nourri à ce niveau-là, enfin, je veux dire, parce qu'il y a un peu tout ce truc de les pratiques spirituelles qui viennent d'ailleurs, et est-ce qu'on se les approprie, on se les approprie pas, mais comment, comment se les approprier, mais est-ce que... Voilà, il y a toutes ces préoccupations qui apparaissent aussi devant une société qui est en manque qui a un vide dans une pratique sensible, spirituelle, et qui est un peu à la recherche continuelle de ça. Et je trouve que c'est intéressant, voilà, justement, enfin, en tout cas, il y a plusieurs choses qui
se... On se demande pourquoi les Européens ne voient pas eux-mêmes.
À eux-mêmes, ouais. Pourquoi ils ne se regardent pas à eux-mêmes? Pourquoi ils ne vont pas aller
leur process de colonisation
à l'intérieur même de l'Europe, culture ou les cultures subissent elles-mêmes en fait une forme de hiérarchisation par les institutions. On prend par exemple l'écriture inclusive. En fait, si on reprend la langue française avant l'institutionnalisation de l'Académie française, on voit que les règles étaient beaucoup plus souples et on voit qu'il y a des métiers qui étaient féminisés. On disait autrice ou un équivalent, en fait. Alors qu'aujourd'hui, les personnes très attachées aux règles de la langue française ne veulent pas utiliser le mot autrice. En fait, on peut argumenter qu'au Moyen-Âge, on utilisait le mot autrice. Processus, c'est pas une question de colonisation dans ce cas-là, mais c'est un écrasement. On part d'une analyse où il y a une hiérarchie des cultures, c'est de la sous-culture. Et du coup, ces sous-cultures qui n'ont pas eu la chance de pouvoir, qui étaient dans l'oralité, par exemple, choses comme ça, il n'y a pas forcément de marque. Aujourd'hui, chercheurs et chercheuses ont du mal. C'est ces choses-là. Donc, du coup, peut-être avec tes recherches, toi, tu as vu avec l'Occitan qu'il faut en fait remettre du coup. C'est par là que vous allez quand vous dites qu'il faut s'observer soi-même.
C'est ça, c'est ça.
Et observer les process des colonialités internes, comme ça que tu bien avais.
Et colonialité, ce serait le mot alors?
La colonialité, parce que c'est, la colonialité, c'est un peu les paquets qui c'est ailleurs des de problèmes territoriaux spécifiques, tu vois. Parce que normalement, en Europe, des personnes vont associer tout ce qui est colonial à les processus d'invasion de les territoires et d'exploitation des territoires qui, ça a terminé, entre guillemets. Mais on parle de les paquets qui a permis que ce processus d'invasion se maintient beaucoup d'années, en fait. Et ce paquet, c'est socioculturel, c'est la langue, c'est la structure religieuse, c'est la structure de la chose, de le savoir qui est effacé. C'est tout ça, et de cette manière, à structurer en une seule manière légitimée par des institutions et par les pouvoirs.
La notion de culture légitime, effectivement, ça c'est...
Et ça, c'est un process qu'on va l'identifier comme colonial, dans le sens de la colonialité de cet paquet culturel. Donc, par exemple, quand on parle, c'est nécessaire que les Européens voient, se regardent eux-mêmes. Ouais. Ça signifie accepter aussi qu'il y a beaucoup de choses dans votre vie qui font part de cette colonialité aussi et qu'il faut qu'on les change. Donc, s'il y a des pratiques en Occitanie qu'on devrait les récupérer pour se reconnecter à une ancestralité qui est très importante et qui a été effacée, ça peut être en alliance avec des autres mouvements ailleurs qui font la même chose, tu vois. Donc, c'est un peu amener l'alliance pour la similarité, même qui ne sont pas les mêmes process, mais on peut parler dans la chasse de la sorcière, parce qu'en fait, un siècle a été un siècle de génocide un peu partout pour installer ces process de colonialité qui a été en Europe, à l'intérieur de l'Europe et ailleurs. Échelle mondiale que la colonialité a pris, ça a été... Ici et ailleurs, la chasse de la sorcière, c'est juste un exemple pour vraiment tuer la résistance que les collectifs de femmes peuvent être mis en place en ce moment-là et que ça a été complètement détruit. Les collectifs de femmes en Europe n'existent pas comme un collectif, tu vois. Et il existe des mouvements de femmes, mais... beaucoup de fois, on s'est dit qu'il y a des femmes qui sont féministes, des femmes qui ne sont pas féministes. Mais ma question, c'est que cet type de mouvement, pour nous qui on étudie tout ça pour arriver à notre contenu, on reconnaît qu'en France, en Europe, il y a beaucoup de situations que tu peux t'allier à la question décoloniale. Parce que la vie en Europe, c'est vraiment colonial. En cet sens de la culture qui est tuée, de la culture de toute cette cette façon de voir le monde, en fait. Mmh. Et de voir la connaissance, et de se voir à vous-même.
En revenant...
À Toulouse.
À Toulouse,
oui. On va proposer 3 jours aussi, là. On va entrer par la musique et la culture populaire à ce type de concert aussi, tu vois. Donc, on va choisir un autre, à Grenoble, a été la danse. Toulouse va être plus la culture populaire et la musique, parce que dans la culture populaire, tu ne peux pas séparer la danse de la musique, en fait. C'est impossible, c'est la même chose, c'est le même mouvement, c'est la même fête, c'est la même célébration, tu vois. Donc, on va amener ce type de mouvement pour arriver à une réflexion commune sur comment on peut agir ensemble, en fait. Et on va faire ça avec une association qui s'appelle... c'est une association des deux femmes françaises blanches qui parle un peu de l'association, pas pour quel nombre exact, please.
Oui, et ben c'est une association qui travaille alors beaucoup avec avec la culture musicale et du corps, enfin de la danse en Afrique. Elle travaille beaucoup avec le Mali et je crois qu'aussi un peu avec le Burkina. Et en fait, on s'est connecté, ça a été hyper intéressant parce qu'en fait, ce sont effectivement deux femmes blanches qui s'intéressent à ces thématiques-là, qui font venir à des personnes de ces pays-là pour donner des stages. Elles-mêmes, elles ont une pratique de la danse et de la musique. Mais en fait, ça a été hyper intéressant parce que justement, elles étaient en train de... pour elle, c'était fondamental, cette question de comment aller vers ces pratiques d'ailleurs, tant blanches, occidentales et tout ça. Et en fait, pour nous, ça, c'est une des questions, c'est ce qu'on est en train de parler, justement, ouais. Approprier, mais...
Comment on peut vivre.
Comment on peut les expérimenter, ouais. Voilà, comment on peut les expérimenter en ne se sentant pas, justement...
de nouveau un colonisateur,
exactement,
en fait,
ouais. Et donc c'est là où je disais, voilà, c'est pour ça que la thématique, justement, la réflexion autour de la colonialité et la décolonialité dans les pratiques de la danse et de la musique, et ben, vont venir lors de ces stages, quoi.
Et de quelque façon, c'est intéressant de leur position, c'est bon, on va faire une chose ensemble, on va faire une chose avec des personnes noires qui sont là à Toulouse, en travaillant de différentes choses. Donc, bon, on verra comment va se passer, mais va avoir un
vendredi
24. Ouais. Et l'association s'appelle AIE.
AIE, ouais.
Et après, les samedis et les dimanches, on va proposer cet stage intensif sur la culture, l'activisme musical décolonial. Donc, entre Abayala, ça veut dire Amérique latine, c'est le nom, c'est les noms qu'on utilise parce que c'est plutôt politique, je dirais, et l'Occitanie. Donc, il va être un voyage intéressant. Et je pense que même que nous sommes dans un autre territoire, s'il y a des personnes qui voudraient venir, on peut, c'est cool de nous contacter parce qu'on peut mettre en place quelque chose, des logements solidaires ou quelque chose comme ça pour des personnes qui voudraient venir à être avec nous, cette proposition-là. Parce que bon, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de choses comme ça en Europe tout le temps. Donc, s'il y a quelques personnes qui sont vraiment intéressées pour tout ça qu'on avait discuté, et il faut qu'ils nous contactent pour avoir, et de notre côté, savoir que nous travaillons toujours ensemble des associations et des personnes qui voudrait de nous inviter à faire quelque chose ensemble. Donc, nous sommes très ouverts pour des personnes ou des associations qui nous écoutent, qui peut-être intéressées d'organiser quelque chose ensemble. On voudrait de faire ça, on veut de faire ça. Et ça y est, un format qui est intéressant et qui va être commun dans les deux ou les trois associations qui vont être en collaboration pour faire un stage, pour faire une rencontre, pour faire une résidence. Donc, bon, le website de Otra Tierra, c'est le www.otratierra.com.br. Donc, c'est un website logé au Brésil. Mais on est les deux langues dans les websites, ça c'est cool. Là-bas, tu peux voir toutes les choses qu'on fait. Et on est en Facebook, otratierra.escola, et en Instagram aussi, otratierra.escola. Et les padlets qu'on a parlé, la mallette pédagogique pour travailler la citoyenneté européenne, les activismes, la citoyenneté européenne contemporaine, et tu peux les chercher dans la web, comment activisme migratoire européen.
AME. AME. Padlet AME.
Qui va avoir tous les cadres référentiels qu'on avait parlé et les exercices qu'on amène pour travailler ça. Et je profite pour dire que ce projet-là, des Padlet et des activismes migratoires européens, on avait fait avec deux associations. À Caméra Lucida, qui travaille sur les territoires de l'Uberon, et Porco Rosso, qui est une association à Palerme, en Italie. Donc, ça a été trois associations qui nous sommes réunies pour faire ce projet. Et tu peux l'utiliser comme tu veux, et toujours faire référence que c'est suffit pour continuer la connaissance entre nous et les savoir-faire.
C'est ça, c'était un projet Erasmus+, donc avec le soutien de l'Union européenne, qui a été mise en place pendant toute l'année dernière, en fait. On a travaillé sur cette recherche, qui a été une super, super belle expérience pour nous.
Et on se laisse en musique.